première mondiale dans l'univers de l'infiniment petit, on la doit à une femme et à des Suisses, Sarah Diren.
Oui, des Suisses, l'EMPA. L'EMPA, c'est le laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche, qui est situé sur plusieurs sites en Suisse, notamment à Zurich. La femme, c'est Laetitia Bernard, docteur en physique. C'est elle qui a travaillé plus de 4 ans pour concevoir le nanokémiscope 3D. Alors, de quoi s'agit-il? D'un instrument de mesure qui analyse non seulement les propriétés physiques, mais également chimiques d'un échantillon, qui est pas plus grand qu'un milliardième de mètre. Et en plus, cerise sur le gâteau, je vous le disais tout à l'heure, il en donne une localisation, une photographie en 3D.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour Stéphane et bonjour Sarah.
Bonjour, merci d'être avec nous dans CQFD ce matin en direct. Vous êtes la maman de ce nanokémiscope 3D. Alors d'abord, il analyse des échantillons de quoi, de quelle nature?
Alors, on analyse en fait n'importe quel échantillon. Il s'agit de préciser qu'on peut analyser des échantillons conducteurs, non conducteurs. On peut analyser la chimie, on peut analyser la physique. En gros, on s'intéresse surtout aux surfaces, mais on peut aussi regarder ce qui se passe en trois dimensions, donc comme l'a mentionné Sarah.
Alors, c'est un appareil révolutionnaire, effectivement. Pour quelle raison? Parce qu'il associe justement la chimie et la physique?
Oui, alors en effet, la science évolue constamment, comme vous le savez, et il est crucial de pouvoir analyser non seulement la composition chimique, non seulement la composition, la structure, mais aussi de pouvoir relier ces deux choses ensemble et le faire à une toute petite échelle localement. Et pour cela, donc, nous avions besoin d'un instrument qui était capable de faire les deux au même endroit, et ça n'existait jusqu'à maintenant pas. Et quand je dis exactement au même endroit, bien entendu, ça veut dire à l'échelle nanométrique, comme vous l'avez dit, donc, ouais, soit 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc très précis.
Mais en fait, vous avez réuni deux technologies qui sont couramment utilisées. D'un côté, le microscope à force atomique, qui va plutôt analyser les données physiques et mécaniques, dureté, élasticité. Et puis de l'autre, le spectromètre de masse, qui va analyser plutôt les données chimiques. Vous avez fusionné ces deux techniques.
Voilà, c'est ça. En fait, le TOF-SIMS, donc le spectromètre, nous donne vraiment une photographie, si vous voulez, une photographie en trois dimensions de la composition chimique. Donc ça veut dire non seulement n'importe quel élément, mais aussi n'importe quelle molécule qui est présente dans l'échantillon, et ceci en chaque point de l'échantillon, et même si les quantités en jeu sont extrêmement faibles. Et de l'autre côté, la FM, en effet, permet d'imager, on peut dire, le relief de la surface, et elle nous permet de découvrir la forme en trois dimensions de l'échantillon. Et comme vous l'avez précisé aussi, elle donne accès à de nombreuses autres propriétés physiques.
Oui, mais à part le gain de temps et puis la localisation, où se situe vraiment l'avantage de combiner ces deux technologies, justement dans le même lieu?
Oui, alors voilà, là il y a trois raisons essentielles à cela. Premièrement, on parle d'une échelle nanométrique. Donc, comme on l'a dit, c'est extrêmement petit. Et vous vous imaginez, avec un échantillon qui fait 1 fois 1 cm, par exemple, retrouver à l'échelle nanométrique le même endroit en étant passé d'un instrument à l'autre, c'est quasiment impossible. Et donc, en fait, même avec l'instrument combiné que l'on a développé, l'ingénieur de notre équipe, Sacha Frankovic, qui s'est occupé de tout le design de l'instrument, a dû faire des travaux très ingénieux pour pouvoir parvenir à une telle résolution, à pouvoir vraiment retrouver exactement le même endroit.
Parce qu'il ressemble à quoi, juste cet appareil? C'est comme un microscope, c'est ça?
Ça ressemble à un énorme appareil plein de tubes, tout en métal. Et il y a une immense chambre à vide qui englobe un peu le tout. Il y a plusieurs canons d'électrons qui sortent de cette chambre à vide et qui pointent vers l'intérieur de la chambre à vide. Et donc là-dedans se trouve inclus le microscope à force atomique.
Mais en fait, Laetitia Bernard, de temps en temps, on perdait l'échantillon. Ça veut dire que... Et puis on pouvait polluer l'échantillon. C'est-à-dire passant d'une machine
là,
à l'autre.
Voilà, c'est ça. La deuxième grosse raison pour laquelle on a besoin que ces deux techniques soient ensemble dans une même chambre à vide, c'est que comme ça, on évite toute possibilité de contamination, d'oxydation que l'échantillon subirait forcément s'il était exposé à l'air.
Mais alors prenons un exemple concret, c'est quel type d'échantillon vous travaillez avec, quel type d'entreprise ou de client qui pourrait être intéressé par ce nouvel appareil?
Alors, on travaille pas spécifiquement avec une entreprise ou un partenaire académique. En fait, on est ouvert à toute possibilité. Et en ce moment, un exemple, ce sont les cellules solaires organiques. Oui. Donc là, pour fabriquer une cellule solaire organique, on a besoin de mélanger différents polymères et ils vont s'arranger spontanément dans une certaine configuration et on compte sur cette configuration pour nous donner la possibilité de capter l'énergie solaire et de la converser en électricité. Mmh. Et pour ça, c'est absolument nécessaire de connaître justement ce qui se passe à l'échelle nanométrique, au niveau chimique, au niveau électrique, au niveau physique. Donc ça, ce serait un exemple d'utilisation de cet instrument.
Mais ça veut dire que je vais essayer de créer ma cellule solaire et ensuite donc regarder au niveau macro ce qui se passe, puis ensuite regarder au niveau nano.
Voilà, oui, effectivement, les propriétés des matériaux en général sont très très. Dans une très grande mesure dépendent essentiellement des propriétés microscopiques. Donc jusqu'à maintenant, on s'en rendait pas. Enfin jusqu'à maintenant, jusqu'au début des nanosciences, on s'en rendait pas vraiment compte. Et puis on faisait à tâtonnement quelques ajustements pour optimiser les propriétés. Mais maintenant qu'on peut voir vraiment à l'échelle nanométrique, on peut comprendre aussi qu'est-ce qui sous-tend, quels sont les mécanismes microscopiques et nanoscopiques qui sous-tendent ces propriétés. Et donc on peut les modifier.
C'est par exemple la même chose si on veut créer une nouvelle peinture, c'est ça? Et puis on veut voir si ça prend bien, si tous les éléments à l'intérieur de cette peinture prennent bien. Et on peut imaginer que la peinture, une fois qu'elle sera sur le mur, elle crochera bien. Et bien on peut aller voir jusque dans le nano, c'est ça, c'est l'idée de votre appareil.
Alors ça, hein, voilà, dans une approche industrielle, c'est ce qu'on ferait effectivement. Donc on demanderait à l'industrie de nous fournir un certain nombre d'échantillons résultant de différentes recettes. Ou disons d'une recette avec différentes variations sur cette recette, et nous analyserions avec le nanochémiscope tous ces échantillons, et on pourrait dire d'une manière empirique, voilà, c'est cette recette qui marche le mieux. Mmh. Bien sûr, dans le milieu académique, on ne procéderait pas comme ça. En tant que chercheur physicienne, mon approche serait plutôt d'utiliser la méthode d'analyse pour comprendre la physique qui sous-tend la propriété en question.
Mais c'est intéressant, Laetitia Bernard, parce que vous dites d'une manière empirique, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de cuisine nanométrique.
Non.
Ah.
Non.
Ah oui, ça c'est embêtant, ça.
Donc,
mais pourquoi?
Mais pour l'instant, peut-être dans quelques années, on pourra.
Oui, c'est dans ce cas, ça s'appellera plus de la cuisine, parce qu'on saura exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
D'accord. Donc pour l'instant, on continue à devoir faire un peu les apprentis sorciers. On met un peu des choses et ensuite on va voir de manière nanométrique si ça a pris ou pas, comme on voulait. Mais on n'arrive pas de manière nanométrique à créer une nouvelle surface ou un nouveau type de peinture, par exemple.
Mais disons que les deux approches évoluent en parallèle, bien sûr.
Oui, ça veut dire qu'en matière de nanosciences, les connaissances vont finalement presque plus vite que la technique.
Oui, ça, de toute façon, je dirais même que de nombreuses prédictions précèdent de très loin les connaissances. Pour un bon nombre de scientifiques, les nanosciences sont nées un certain jour, en 1959, lorsqu'un éminent scientifique américain, donc Richard Feynman, a dit « There is plenty of room at the bottom ». Il y a beaucoup de place dans le domaine du tout petit. Et il entendait par là qu'il existait un monde entier à découvrir dans le nano. Et ça, c'était en 1959. Et il a fallu attendre 20 ans pour l'invention du microscope à effet tunnel et puis du microscope à force atomique, dont on parle là aujourd'hui, pour enfin pouvoir voir les atomes, pour pouvoir voir à l'échelle nanométrique. Et ça a ouvert évidemment jusqu'à aujourd'hui la porte à une multitude d'applications, comme les tissus insalissables, les peintures qui changent de couleur suivant l'angle avec lequel on les regarde, les matériaux qui s'auto-régénèrent. Et c'est vraiment par l'accumulation des connaissances que voient le jour petit à petit toutes ces nouvelles technologies.
Alors, nouvelle technologie en l'occurrence, le nanochémiscope 3D, c'est une première mondiale. On peut l'acheter, on peut vous le commander. Si oui, à quel prix?
Alors, il faut savoir là que l'EMPA est un institut gouvernemental de recherche.
Oui.
Donc nous ne vendons pas l'instrument par nous-mêmes, mais par contre c'est le partenaire industriel allemand avec qui nous avons développé en collaboration européenne cet instrument et qui va se charger de la commercialisation de l'instrument. Mais bon, effectivement, on espère bien que dans les 3 ans, on aura l'instrument sur le marché.
Pour quel prix, vous savez déjà?
Le prix, je ne peux pas vous donner une version officielle, mais par contre, je crois qu'il faut s'attendre à un nombre à 7 chiffres.
D'accord. Très bien, avec des virgules au milieu, non pas de virgule. Après les 7 chiffres, la virgule, très bien. Merci beaucoup Laetitia Bernard, bonne chance.
Merci à vous et puis bonne journée à vous et à tous nos auditeurs.
Très bien, merci. Depuis Dubendorf ce matin, c'est juste?
Oui, c'est ça. Oui.
Et vous venez de fêter les 50 ans, je crois, de
l'EMPA Dubendorf.
Alors merci beaucoup et à bientôt Laetitia Bernard.